Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne durant la case.
Bonjour Paul Andreu.
Bonjour.
Nous allons parler aujourd'hui de vos livres parus en 2011, Lettres à un jeune architecte, publié chez Fata Morgana, et de votre roman Les eaux dormantes, publié chez Les Impressions Nouvelles. Vous avez également publié un petit livre d'artiste qui s'appelle L'homme qui chantait. Mais on va surtout parler de deux de vos livres, Lettres à un jeune architecte et Les eaux dormantes, aujourd'hui votre roman. Des livres différents qui ne répondent pas du tout aux mêmes invitations. Et voilà venu chez vous le temps de l'écriture qui se confirme, puisque ça fait déjà une dizaine d'années que vous écrivez, en parallèle de votre activité d'architecte, mais vous semblez là vraiment écrire de plus en plus. Vous aviez déjà publié un roman assez remarqué qui était La Maison en 2009, dont vous étiez venu nous parler et qui parlait avec humour de votre enfance. Là, on est dans d'autres domaines, mais on va commencer par Lettres à un jeune architecte, si vous voulez bien, qui est une mise en parallèle de deux histoires, mais comme vous le dites vous-même dans le tout début du livre, l'une c'est un discours en forme d'adresse, de lettre que vous aviez écrit au printemps 99, et l'autre histoire qui est mise en parallèle, c'est une histoire de dessin. Ce sont vos dessins tirés de vos carnets, et c'est une histoire suggérée. Alors on va parler de ça, mais pour commencer, peut-être devrais-je rappeler que vous êtes l'architecte de l'Opéra de Pékin, de Roissy, et de bien d'autres bâtiments, bien sûr, que vous avez construits un petit peu partout dans le monde. Peut-être pour commencer, dans quelles circonstances avez-vous écrit cette lettre, ce texte en forme d'adresse ?
Ce texte, je l'ai écrit, je crois que c'est en 99. On était en plein concours pour l'opéra. On s'approchait de la fin de ce concours, mais il n'y avait pas encore de décision. Et le congrès de l'UIA, de l'Union internationale des architectes, s'est passé à Pékin à ce moment-là. Et les Chinois ont dit aux concurrents, qu'on était deux ou trois, « Eh bien, si vous voulez parler, vous êtes invités à parler au congrès. » Alors, ce qui était embarrassant, parce que moi, j'avais aucunement envie, étant dans un concours, de faire mon panégyrique, ni de rappeler toute ma vie et mes mérites. Ça aurait pu être efficace, peut-être, mais en tout cas, ça ne me paraissait pas bien. Et donc, j'ai accepté quand même de parler, parce qu'il n'y avait pas de raison de le refuser. Et après avoir bien réfléchi, je me suis dit que, voilà, je n'allais pas montrer et détailler mes œuvres, mais plutôt parler de mes idées, et le faire sous la forme d'une lettre à un jeune architecte. Dieu sait s'il y a des jeunes architectes en Chine, il y en a beaucoup, et ambitieux, talentueux. Et puis, bien sûr, la lettre à un jeune, c'est Rilkéen.
Voilà, hein, c'est
vrai. J'ai assez lu celle à un jeune poète pour oser ce titre.
Alors, dans cette lettre, vous dites tout ce que vous aimeriez que retienne une jeune génération d'architectes. C'est un petit peu daté dans le temps au début, mais autrement, c'est quelque chose qu'effectivement, qui peut être appliqué même dans 10 ans. J'imagine pas le texte trop vieillir, en fait. Même si ça commence concrètement, vous vous rappelez du moment où le chantier à Roissy a commencé, une époque tout à fait particulière que vous soulignez, ça a l'air d'être assez permanent dans le temps. Ce sont des conseils, des principes généraux.
Vous savez, justement, la lettre à un jeune poète, c'est pareil. Quand Rilke dit au poète « Méfiez-vous des poèmes d'amour, c'est les plus difficiles à écrire », c'est une vérité permanente, universelle, ayant en architecture comme ça un certain nombre de choses qui sont fortes. En tout cas, il y a des choses auxquelles je crois et qu'elles ne se modifient pas beaucoup dans le temps.
Contre quoi souhaitez-vous mettre en garde les jeunes architectes ? Vous commencez par la théorie.
Oui, si vous voulez, à la fois, je me défie des idéologies. Appliqué aux arts, je pense que ça produit de grands mécomptes, quoi. L'idéologie étant quelque chose qui a, un peu par principe, réponse à tout, je pense que ça a plutôt fait des ravages dans l'art. Et moi, je ne suis pas du tout au contraire contre la théorie, mais avec cette idée que la théorie, il faut l'entendre avec son sens grec, de fil, ordre. Finalement, la théorie, c'est quelque chose qu'on fait après et pas avant. C'est pour moi un mode de réflexion sur ce qu'on a fait ou sur ce que d'autres ont fait, consiste à mettre tout ça dans un certain ordre et à se préparer pour une création future, laquelle forcément dérangera cette théorie, la remettra en cause, à la fois s'appuiera sur elle et la remettra en cause. Et donc, au bout d'un certain temps, il faudra remettre à nouveau les ordres. Ben, par des désordres successifs, on bâtit des ordres successifs qui sont des théories. Et Voilà, pour moi, c'est ça la théorie. J'avais déjà envie de leur dire ça. Ne commencez pas à tout savoir, réfléchissez à ce qui existe et procédez comme ça par étapes. Et ensuite, j'avais envie de les mettre un peu en garde contre les académismes du moment, disons. Alors, ils ont varié beaucoup, les académismes. Mais il y a aujourd'hui une espèce d'académisme de l'ordinateur, de l'usage de l'ordinateur, qui permet certaines audaces qui n'en sont plus. Voilà, qui est un peu une architecture de « m'as-tu vu » ou de « je ne l'ai jamais vu », qui n'a en soi aucune importance et aucun intérêt, et qui est ce qu'on voit fleurir à droite et à gauche et qui attire tant l'attention, mais qu'on voit surtout dans des régions comme le Golfe Arabique, où les gens sont prêts à dépenser des fortunes pour faire des bâtiments curieux, ou des icônes, comme ils disent. Bon, donc j'avais envie de leur parler de culture, de matériaux, de... Vous voyez, leur dire des choses simples, toutes simples. Les mettre aussi, et là c'est beaucoup parce que j'étais en Chine, les mettre aussi beaucoup en garde contre ce qu'on appelle la culture, et qui est une espèce d'erreur sur les représentations qu'on donne de la culture, la forme, le recours à des vieilleries qu'on regarde. Et je voulais leur dire et leur répéter que la culture est un bien énorme, prodigieux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire, contre lequel on peut s'appuyer, qui vous donne de l'élan, qui vous pousse en avant. Il faut toujours espérer une réémergence. On ne peut pas l'utiliser comme on utilise, je ne sais pas, le sel et le poivre dans la cuisine ou les condiments, quoi, pour rendre meilleur ou acceptable quelque chose qui ne l'est pas. Et ça, bien sûr, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'applique à toutes les nations très cultivées. Les gens sans culture dans les nations cultivées s'imaginent qu'en employant les signes de la culture, ils vont arriver à quelque chose. Mais non, bien sûr que non.
Vous avez eu un dialogue avec les architectes chinois sur ce point.
Oh, j'en ai parlé souvent avec eux.
Quelle vision ont-ils ?
Il y a eu cette énorme interruption pendant laquelle ils n'ont rien fait. On leur a même interdit un peu de penser à certains moments. Mais avant la révolution, il y avait un tas d'étudiants chinois qui étaient aux États-Unis, qui ont participé d'une certaine manière au mouvement moderne et qui avaient introduit le mouvement moderne en Chine. D'ailleurs, des gens comme Pei en sont l'illustration, et dans le domaine des arts, des gens comme Zhao Qi, par exemple, ou Xu Techun. Donc tous ces gens, ils avaient une vision moderne, et il y a une architecture moderne, mais qui s'est arrêtée très tôt en Chine. Et il y avait ce grand débat déjà à l'époque, ce grand débat qu'on appelait le débat du grand toit. Est-ce qu'il fallait abriter les ouvrages modernes par un grand toit à l'image des bâtiments chinois traditionnels, ou est-ce qu'il fallait faire des toits-terrasses et être moderne jusqu'au bout? Alors, ce débat, il a donné des choses formidables et des choses qu'il était moins, qu'importe. Mais il existait déjà et il se poursuit tout du long. De très nombreuses personnes en Chine, y compris dans les milieux artistiques, qui ont toujours, comment dirais-je, l'explication du monde est toujours analogique. Voilà, les choses se comprennent parce qu'elles ressemblent à d'autres choses. Bon, ce bâtiment ressemble au porte-plume qu'employait je ne sais qui. Celui-là ressemble à... Le ressemble à, c'est-à-dire pas la métaphore qui est une chose très subtile et très complète, mais le simple ressemble à est un mode de décryptage du monde pour beaucoup, beaucoup de Chinois. Moi, je suis en train de faire un bâtiment en ce moment. On m'a dit, il faut vous inspirer. Les leaders ont dit qu'il fallait s'inspirer du poème de je ne sais plus quel poète sur... la mer bleue et les montagnes vertes. Bon, certes, mais... Alors, à vrai dire, tout le monde s'en fiche. Du moment que je dis que c'est les montagnes vertes et la mer bleue, tout le monde est content, quoi. Mais il faut qu'il y ait une espèce de lecture analogique des choses. Voilà que moi, je suis complètement allergique.
Hein. À ça.
Non pas indifférent, mais allergique, carrément.
Oui. Ben, dans l'être un jeune architecte, vous spécifiez bien que tout bâtiment doit avoir une âme.
Oui,
autrement, il ne serait pas digne d'être une œuvre architecturale.
Il y a une autonomie profonde de chacun des arts. Dieu sait que les arts se nourrissent les uns des autres et que sans ces relations profondes, on serait tous vite asséchés et faméliques. Mais il n'empêche, après, l'architecture, c'est l'architecture. Et la peinture, c'est un autre art. La littérature, c'est autre chose. Enfin, n'est intéressante que l'architecture qui est de manière autonome de l'architecture. De même que la littérature. Si la littérature qui n'est qu'un commentaire d'autre chose est sans intérêt.
Vous parlez de consistance des idées,
oui.
Au départ,
oui.
À l'origine de tout projet.
Oui, alors ça, c'est une chose à laquelle je suis très attaché.
Oui, vous pouvez nous l'expliquer un peu ?
Oui, c'est-à-dire que si vous faites un projet, moi je suis convaincu qu'un projet est dans l'espace global de la vie, de l'architecture, de tout ça qu'on peut restreindre plus ou moins, dans un espace quand même très vaste, c'est un objet autonome et qui doit être intelligible, qui doit avoir une espèce d'ordre interne. Et donc, il faut que les idées différentes qu'on amène à l'intérieur du projet aient une consistance, forment une espèce de système. Je pense que n'importe quel scientifique, par exemple, aurait exactement la même attitude. Si on fait une théorie mathématique, le tout n'est pas qu'elle représente un phénomène physique ou autre chose. Le tout est qu'elle soit cohérente, consistante. Et moi, j'ai gardé cet attachement aux choses qui sont consistantes parce que ça me... Encore une fois, que ce qu'on fait dans les aménagements de détail est un certain rapport qui peut être une opposition ou un accord. Qu'importe, je veux dire que les choses ne procèdent pas les unes des autres comme ça par implication simple, mais elles ont un rapport entre elles. Ce qui me paraît le plus terrible, c'est quand viennent dans une même œuvre des choses qui n'ont rigoureusement rien à voir les unes avec les autres. Alors en ça, je suis peut-être pas très surréaliste.
Vous dites, il me semble, à plusieurs reprises, mais enfin ça revient en tout cas sous votre plume dans cette lettre à un jeune architecte, quand vous vous adressez à vos auditeurs. Nous attendions quelque chose, mais nous ne savions pas quoi exactement, et c'est ça qui nourrit votre réflexion. Ces allers-retours, cette transversalité dont vous parliez tout à l'heure, aussi vos expériences que vous avez beaucoup croisées. Vous expliquez que Roissy 1, Roissy 2, c'est beaucoup nourri de tous les autres aérogares que vous avez construits ailleurs.
Oui,
vous
oui.
avez l'air de beaucoup insister aussi sur cet enrichissement venu d'expériences d'autres chantiers.
Oui, vous avez raison. D'abord, si vous voulez, la différence qu'il y a entre ce qu'on attend et ce qu'on désire est énorme. En général, on ne sait pas ce qu'on attend. Je me rappelle, pendant tout le concours de l'opéra, je leur avais fait une petite fable à mes amis chinois, comme ça que je leur racontais régulièrement. C'est celle du jeune homme qui veut se marier. Alors, il a des désirs. Il veut qu'elle soit belle, riche, blonde, je ne sais comment. Enfin, vous voyez toute la liste des désirs qu'on peut avoir. Et puis, il passe une petite brune qui n'a aucune de ses qualités, mais dont il tombe amoureux. Il attendait celle-là, il en désirait une autre. Enfin, il espérait ou il souhaitait quelque chose. Et son désir profond, son attente, il ne la connaissait pas. Et au fond, c'est vrai de l'architecture. Je pense que c'est vrai de n'importe quelle création, à vrai dire. Ce qui est important, c'est de rencontrer l'attente, la sienne d'abord, mais surtout celle des gens qui verront ou utiliseront l'œuvre. Ce qui fait, et il y a un fort coefficient de chance là, parce qu'il n'y a pas de méthode de décryptage. Si vous voulez vendre des automobiles ou des objets, il est raisonnable de faire du marketing. Mais si vous faites un objet unique, à quoi ça vous servirait de faire du marketing ? À rien du tout. Vous n'avez pas de méthode pour savoir ce qu'attendent les gens, et si vous vous fiez à ce qu'ils vous disent être leur souhait, vous allez certainement vous tromper. Et donc il y a ça. Et aussi, vous avez raison, les travaux se nourrissent les uns des autres, ce qu'une étude a laissé en plan comme une espèce de possibilité pas aboutie, pas menée à son terme, une autre va la reprendre ensuite, va bâtir à partir de là quelque chose de neuf. Moi, j'ai beaucoup vécu ça aussi. La réflexion, et ça rejoint ce que je vous disais de la théorie, la réflexion que j'ai pu me faire, par exemple, sur l'aérogare 1, ou utilisant les remarques qu'on faisait sur l'aérogare 1, m'a entraîné à faire sur l'aérogare 2 des choses qui procèdent de là, mais qui sont profondément différentes. Et ainsi de suite, comme on dit.
Voilà. Alors, dans ce petit livre, pour le grand plaisir des lecteurs, il y a des dessins qui ne sont pas en illustration directe
du
texte.
Non, pas du tout.
Alors, c'est très sympathique de ne pas avoir mis de photos, ça change. Bon, c'est évidemment la marque aussi de Fata Morgana. Et là, on a presque sur chaque page, d'ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais c'est
Sur chacune
des pages, il y a un dessin de vous. Vous avez à peu près réalisé une soixantaine de carnets de dessins, mais bon, là, on en a quelques-uns. Ils sont tous pris autour du Théâtre de l'Opéra
de Pékin.
Ils sont tous des dessins
de l'opéra.
Voilà.
Et ils sont dans l'ordre historique absolu.
Ah,
ils ne sont pas tous là. Ils ne sont pas tous là. Et de loin.
Oui.
Mais ceux qui sont là sont dans l'ordre où ils ont été faits dans mes carnets. Je n'ai jamais inversé. On a eu ce projet avec David Massabuo qui a suivi la fabrication de ce livre de très près, avec qui j'ai beaucoup discuté, à la fois de faire, comment dirais-je, de montrer quelque chose de graphique en même temps que le texte. Et en même temps que ce soit absolument, oui, deux histoires séparées. Elles sont séparées dans le temps. Au fond, l'histoire de l'opéra commence après le texte, après la prononciation de ce discours, puisque ce n'est qu'un mois ensuite, après ça, que j'ai appris que j'avais gagné le concours. Donc ce sont des histoires qui ne sont absolument pas concomitantes, mais ce sont deux histoires, un court moment de parole et 10 ans de travail sur un projet, mais qui respecte absolument le déroulement du temps. Et on a fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour arriver à éviter ce qui, moi, me paraît toujours terrible. Je pense que dès qu'on met des images, on tue le texte. Et comme j'ai des prétentions d'écriture, j'ai pas envie que mon texte soit tué. Alors, dès qu'il y a une photo, dès qu'il y a quelque chose... Donc, j'ai cherché avec David comment on allait pouvoir mettre ça en page de manière qu'il y ait cette double lecture, qu'on puisse sauter d'une lecture à une autre si on a envie, mais que quand même on soit entraîné à lire le texte en continu et qu'on soit entraîné à lire les images en continu. Voilà, d'où cet équilibre alors très subtil. Alors, les dessins sont, je vous lis dans l'ordre, oui, reproduits très fidèlement avec... Juste, ce qu'on s'est permis, c'est de changer un peu leur intensité et leur taille. Parce que dans la taille, là, il y avait des choses qui, justement, n'allaient pas avec cette mise en page qu'on voulait. Mais enfin, on ne l'a jamais beaucoup modifié. Et quand on a changé l'intensité des traits, c'était simplement pour les rendre plus uniformes. Parce que de temps en temps, mon stylo n'a plus d'encre, quoi.
Vous dessinez au stylo?
Ah, toujours. Je n'ai qu'un instrument. Quand j'écris ou que je dessine, je n'ai qu'un instrument, c'est le stylo.
Parlez-nous un peu de votre pratique du dessin.
Si vous voulez, moi, je fais des dessins tout le temps. Voilà, quand je fais de l'architecture, je fais des dessins parce que je ne dis pas du tout que c'est un système obligatoire. Certains de mes confrères ne dessinent pas. Ils regardent des choses, ils donnent des instructions aux gens, des indications, ils choisissent. Moi, je ne sais pas pourquoi, par habitude, j'ai besoin de dessiner. Un projet sur lequel je n'ai pas dessiné, je suis incapable de donner des indications à des gens dessus. Je suis tout à fait capable de renoncer aux idées qui me sont venues en dessinant pour trouver d'autres meilleures. Mais si je n'ai pas cette base personnelle, eh bien, ça me manque. Et si vous voulez, le dessin est un mode de découverte très puissant. Le dessin fait à la main. Le dessin à la machine, c'est pas ma génération, donc je vais m'abstenir d'en parler. En tout cas, pour moi, ce n'est rien que de la mise en forme. Mais il y a dans le dessin quelque chose que tantôt vous commandez et qui tantôt vous commande. Votre main, de temps en temps, va plus vite que votre tête rattrape. C'est une espèce de mouvement comme ça. Vous avez des surprises. Les erreurs du dessin sont importantes. Non pas tellement parce qu'elles viendraient du subconscient ou de je ne sais quoi, qui guiderait votre main. Vous voyez, je ne crois pas beaucoup à ça. Mais simplement l'erreur matérielle, quoi. J'allais dire darwinienne. Des petites causes comme ça. Finalement, vous font des tas de petites erreurs, vous font découvrir des fois des choses que vous vous mettez à lire dans un dessin que vous avez fait, que vous n'y attendiez pas à y trouver, quoi.
Pour terminer sur cette série de dessins qui figure en haut des pages, justement, quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était des dessins de l'Opéra de Pékin, j'avais juste un doute, c'était sur le dernier dessin, parce que ça me faisait penser à Roissy, mais ce n'est pas ça.
Non.
C'est pour dire comment mon œil d'électrice a vu vos dessins. Voilà.
Oui.
Effectivement, c'est une mise en parallèle, mais qui fonctionne probablement entre les deux.
Ah, puis vous savez, après, on n'est qu'une seule personne, quoi.
Oui. On va parler un petit peu de votre roman, si vous avez encore quelques minutes, quitte à y revenir dans une plus longue émission prochainement. Les eaux dormantes, c'est un récit autobiographique?
Non. C'est un récit à la première personne, à cause de l'efficacité de la première personne.
Oui.
Je veux dire que c'est vrai que la maison et le tout premier, l'archipel de la mémoire, c'est trois choses qui sont à la première personne. Pourquoi? Je pense parce que à cause de l'efficacité que ça a aujourd'hui. Et ce sont aussi trois choses qui sont écrites en paragraphes. Mmh. C'est une écriture en paragraphes qui est pleine de non-dits, de cases à remplir, si j'ose dire, ou de possibilités de remplissage par le lecteur. Alors, bien sûr, là aussi, on n'est qu'une personne. Ça se nourrit d'éléments biographiques, forcément.
Bien sûr.
Mais le seul fait d'écrire, c'est déjà de choisir. Et les choisir, ça n'est plus faire de l'autobiographie. Et il y a en plus dedans un certain nombre de choses qui ne me sont jamais arrivées. Ça vraiment jamais arrivé. Alors qu'importe lesquelles, mais il y a une bonne partie de fictionnel. Et en tout cas, l'assemblage est totalement fictionnel.
Alors c'est quand même l'histoire d'un homme en souffrance.
Oui, c'est l'histoire, mais qui pourrait être très, qui est peut-être extrêmement banale, de quelqu'un qui est dans l'activité, le tumulte, bon, la vie qui passe, peut-être brillante, peut-être pleine de succès, et qui, d'un seul coup, pour une raison qu'on ne connaîtra pas, s'arrête quelque part, décide que dans cet endroit qu'il a connu avant, il va s'arrêter. Et il loge dans une petite maison annexe. Il s'installe au bord d'un petit étang. Il en fait le tour. Il attend que ça se passe. Il attend que la paix revienne.
C'est le temps de la lassitude.
C'est le temps de la lassitude, de la réflexion, de la réflexion sur qu'est-ce qui fait sa vie, qu'est-ce qui fait vraiment le fond de sa vie. Et cette espèce de découverte progressive que au fond, ce qu'on croit le plus tenir, ce qui est au centre, on parle toujours du centre là-dedans, là où est le mouvement, le tumulte, le brillant de la vie, le succès, au fond, ça ne laisse pas grand-chose. Et que peut-être on se définit mieux par les franges, parce qu'on n'a pas fait, parce qu'on n'a pas voulu faire, parce qu'on n'a pas pu faire, ce à quoi on a renoncé, et que finalement cette zone vague, difficile à limiter, dans laquelle on ne trouve pas une ligne précise, disant ce qui est dedans et ce qui est dehors, hein, cette espèce de frontière floue, finalement elle vous définit mieux que ce centre agité de vos actions ou de vos passions. Voilà ce qu'au fond, c'est ça le thème des eaux dormantes. C'est on est qui ? On est celui qui fait les choses ou celui qui a renoncé à faire ça, n'a pas pu faire ça, a vécu cet échec et qui en même temps est, voilà,
le personnage,
l'a mis dans un espace qui est beaucoup plus vaste que ce que finalement il a bien pu faire.
Le personnage se pose des questions sur sa vie. Je lis un petit extrait. Je suis parti. C'était le mieux. Je ne suis pas revenu sur mes pas. Il n'y a eu ni retour, ni lendemain. Elle est devenue ma fille. Pas tout de suite. Je n'ai d'abord reconnu en elle que cette partie de moi qu'avant, bien avant, je n'avais pas choisie. Elle est maintenant dans un sillon de ma mémoire, que seules les intempéries du temps fermeront, un sillon qui en relie d'autres, plus anciens ou récents. Il n'arrivera rien, rien, et c'est mieux ainsi. Il y a beaucoup aussi d'allers-retours ou d'échos à la nature, à ce que ses yeux voient autour de lui.
Oui.
Ça, c'est des très beaux moments du roman.
Oui, il y a cette redécouverte de la nature, d'un certain nombre de ses lois. Les physiciens retrouveront des petits amusements sur les grenouilles et la théorie de Boltzmann ou d'un autre, ou d'Einstein. Tout ça pour m'amuser et faire des clins d'œil. Mais en même temps, avec un grand sérieux, quoi. Et puis, si vous voulez, je revendique là-dedans une grande attention portée aux femmes, voilà. Et au fond, tout au long du livre, les femmes sont les personnages. Autant lui est seul, unique, attendant, pensant, désespéré. Autant les figures de femmes qui se succèdent sont différentes, aidantes, aimantes. Et il y a surtout, comment dirais-je, il y en a plusieurs, mais il y a cette trilogie de cette femme âgée, dans la force de l'âge, et de la petite fille, qui échangent leur rôle, leur influence, et qui correspondent à un portrait en gloire de la femme. Voilà.
On va peut-être rester sur ce mot-là. Il y a une partie que vous voudriez lire.
Une femme vient vers moi sans hâte, sans hésitation. Je ne la dévisage pas. Je regarde ses pieds, pas davantage, et encore avec toute la dissimulation dont je suis capable. Je la tiens au bord de mon regard, là où seul le mouvement global se perçoit. Elle s'arrête et me dit bonjour. Bien sûr, je ne lui réponds pas. Mais le mot persiste, ou plutôt le son de ce mot, à la fois banal et singulier, comme une musique connue et tout à fait nouvelle. Ne pas lever les yeux. Surtout ne pas lever les yeux, elle partira. Elle reste. Je refuse de comprendre ces mots, mais je ne puis échapper à la musique de sa voix. Malgré moi, degré par degré, mon regard monte vers elle, je la vois, sans rien voir d'elle, sinon elle seulement. Elle est entre moi et les temps, la tête dans le ciel. Elle n'est pas belle, vivante seulement, comme un arbre. Mes yeux n'iront pas jusqu'au sien. Ils ont parcouru ses jambes, son ventre et sa poitrine, ont hésité à franchir son cou et se sont arrêtés à sa bouche, au rouge, au blanc et au noir de sa bouche qui donne aux mots leur couleur.
Merci Paul-André. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?
Je lis un roman israélien, celui qui dormait tout le temps. Je ne sais plus. Voilà, je lis comme ça des tas de choses. Ça dépend des moments.
C'est une petite question, un accent sans plus. Merci Paul-André. Merci beaucoup. À bientôt.